Bonjour chers auditeurs, au micro Catherine Mann pour l'émission Chemin de foi, qui vient vous inviter à voyager à la suite de quelques grands témoins de la spiritualité chrétienne. Et à tout seigneur, tout honneur, j'ai voulu vous parler d'abord de celui qui eut un chemin tout à fait extraordinaire, puisqu'il fut choisi par Jésus-Christ ressuscité pour annoncer la foi en monde païen, c'est-à-dire Paul de Tarse. Saint Paul. Nous avions quitté Saint Paul lors de notre dernière émission quand il était à Athènes et qu'il se promenait dans la ville en découvrant un peu horrifié toute la quantité de statues des dieux de l'Olympe et les multiples lieux de culte qui se trouvent à tous les coins de rue. Pour Saint Paul, ce ne sont que des idoles sans consistance. Et cela choque évidemment sa foi juive dans le Dieu unique. C'est pourquoi nous avons vu qu'il venait d'accepter une invitation des autorités locales et des responsables à la fois intellectuels et politiques pour qu'il vienne présenter à l'Agora sa propre religion. Parce que les Grecs sont curieux de tout. Et spécialement des nouvelles religions et d'éventuels dieux étrangers, tout les intéresse. Saint Paul arrive donc devant l'Aréopage, où sont rassemblés tous les hommes importants d'Athènes et l'intelligentsia. Et donc il commence un exposé magistral sur sa religion. Mais son but, à lui, n'est pas uniquement d'informer les Athéniens, il veut les convaincre pour les convertir au Dieu d'Israël et Père de Jésus-Christ. Mais commence pas tout de suite, c'est un discours qui va être assez long, très important, qui va servir toujours un peu d'exemple type de la prédication chrétienne. On peut trouver donc ce discours relaté dans les Actes des Apôtres, écrit par l'évangéliste Luc, chapitre 17. Alors, je vais évidemment vous lire seulement des petits extraits. Voici déjà le début. « Athéniens, je vous considère à tous égards comme des hommes presque trop religieux. Quand je parcours vos rues, mon regard se porte en effet souvent sur vos monuments sacrés. Et j'ai découvert, entre autres, un autel qui portait cette inscription « Au Dieu inconnu ». Ce que vous vénérez ainsi sans le connaître, c'est ce que je viens, moi, vous annoncer. » Voilà, donc on peut observer ici que saint Paul ne veut pas affronter les croyances de son auditoire. Il ne les critique pas, il trouve une porte d'entrée dans leur religion, un monument au Dieu inconnu, et il s'en sert pour y introduire son Dieu, finalement, avec bienveillance, comme pour leur rendre service. Mais évidemment, cette entrée en matière pleine de cordialité ne va pas l'empêcher ensuite d'entrer dans le vif du sujet, le sujet qui fâche. Je vous lis le chapitre 17 des Actes, verset 24. « Le Dieu qui a créé l'univers et tout ce qui s'y trouve, lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas des temples construits par la main des hommes. » Ah, déjà, un peu plus loin, verset 29, il ajoute. « Nous ne devons pas penser que la divinité ressemble à de l'or, de l'argent ou du marbre, des sculptures, de l'art ou de l'imagination de l'homme. » Évidemment, ça commence à coincer avec les représentations des dieux grecs. Parce que pour Paul, ce ne sont que d'inutiles produits de l'imagination. Alors, je pense qu'à ce moment-là du discours, les Athéniens devaient commencer à s'agacer. Mais ça tient bon jusqu'au moment où Paul va annoncer qu'il y a aussi la médiation du Christ. Et là, ça va se gâter. Je vous lis le verset 31. « Dieu a en effet fixé un jour où il doit juger le monde avec justice par l'homme qu'il a désigné, comme il en a donné la garantie à tous, en le ressuscitant d'entre les morts. Ah ! Donc voilà, ça, Paul parle sans détour de la résurrection du Christ. Alors évidemment, on n'a pas tout l'ensemble du discours, mais il est évident qu'il parle de la résurrection du corps. Alors, il semble oublier, pourtant il est assez savant en philosophie grecque, mais il semble oublier que l'élite intellectuelle qui se trouve devant lui sont des philosophes, des savants, et ils sont très rationnels et très imbus de leur certitude. Et leur réaction va alors être catégorique et sans pitié. Au mot de résurrection des morts, les uns se moquaient, et d'autres déclarèrent « Oh, nous t'entendrons là-dessus une autre fois hein, !» Voilà. Donc, on lui tourne les talons. Pour les Grecs, Paul a atteint là les limites de la crédibilité. Il faut se rappeler quand même qu'ils ont une conception de l'humanité qui est dualiste. Il y a d'un côté le corps, de l'autre l'âme. À la mort, l'âme se sépare du corps et rejoint le monde spirituel. Éventuellement, ils auraient pu accepter l'idée d'un retour de l'âme dans un autre corps après la mort, c'est-à-dire une réincarnation, mais l'idée d'une survie du corps après la mort, ça leur paraît, mais alors totalement ridicule. Les Athéniens vont donc se détourner de Paul en ricanant, et sa prédication va lui sembler un échec retentissant. Pourtant, le texte des Actes nous dit quand même qu'il y eut quelques personnes qui furent convaincues et qui devinrent croyants. Ça doit être une poignée. Entre autres, Denis l'Aréopagite, dont le nom a été repris jusqu'au Moyen-Âge, jusqu'à faire Saint-Denis, et une femme nommée Damaris. C'est tout ce qu'on sait. Mais donc il y a eu quand même une petite communauté chrétienne qui va naître à Athènes, et somme toute que demander de plus. Mais il semble bien que saint Paul, lui, s'est senti blessé par cette expérience, car il ne reviendra jamais à Athènes et n'en parlera plus. Et bien sûr, il va tirer des leçons de cette brève et difficile confrontation avec la pensée grecque, et il va affiner sa méthode d'évangélisation. Donc ici, il quitte Athènes, et aussitôt se rend à Corinthe, où il va séjourner longtemps et réussira à fonder une grande église. Pensons aux lettres qu'il écrira ensuite aux Corinthiens et qui nourrissent encore notre propre foi aujourd'hui. Corinthe, ce n'est qu'à 60 km d'Athènes, ça correspond donc à un petit voyage à pied de 3 ou 4 jours. Mais cette ville de Corinthe est très différente d'Athènes, vraiment. C'est une ville d'une importance économique fondamentale. Elle a deux ports et elle attire une population justement de travailleurs autour de ces ports et surtout une population très mélangée, internationale pour le coup. Alors multiethnique, donc multiculturel et aussi plurireligieux. C'est un mélange de populations, surtout attiré par un certain miracle économique qui bouillonnent là-bas. Non, ce sont des artisans, des commerçants, des dockers, toute une population. Mais ce sont des gens simples, pas du tout le genre de philosophes athéniens. Et il y a aussi une communauté juive et une synagogue où Paul va se rendre dès son arrivée et tisser des liens. Mais je vous lis quelques phrases des Actes des Apôtres, début du chapitre 18, qui raconte donc l'arrivée de Paul à Corinthe. « En quittant Athènes, Paul se rendit ensuite à Corinthe. Il rencontra là un juif nommé Aquilas, originaire du Pont, qui venait d'arriver d'Italie avec sa femme Priscille. Claude, l'empereur, en effet, avait décrété que tous les juifs devaient quitter Rome. Paul entra en relation avec eux, et comme ils avaient le même métier, c'était des fabricants de tentes, il s'installa chez eux et travailla avec eux. »
Radio Grand Ciel.
Voilà donc Saint-Paul installé à Corinthe chez Priscille et Aquilas. Il travaille avec eux puisqu'ils ont le même métier, ils sont fabricants de tentes. Et remarquons bien que Paul va toujours vouloir autant que possible exercer son métier, même pendant ses voyages, parce qu'il ne voulait être à charge de personne. Et surtout, il voulait être libre pour annoncer l'évangile gratuitement. À Corinthe aussi, comme à son habitude, il va commencer donc par fréquenter la synagogue où il veut convaincre les Juifs en leur témoignant que Jésus est bien le Messie attendu. Alors pour Priscille et Aquilas, ce sont des Juifs, mais probablement déjà en partie ou totalement convertis au christianisme à Rome. Parce que faut vous dire qu'à Rome, on ne faisait pas encore bien la différence entre Juifs et premiers chrétiens. Et même, tous les débuts du christianisme, c'est assez encore mélangé. En tout cas, rien n'est dit de la conversion de ce couple par saint Paul. C'est comme s'ils étaient déjà quand même ancrés dans la foi chrétienne. Mais pour le reste des Juifs à la synagogue, c'est un petit peu comme d'habitude, je dirais. Il n'eut aucun succès et ne rencontra qu'insultes et opposition. Mais il est habitué, et il part évidemment toujours en secouant la poussière de ses chaussures en disant « c'est désormais seulement aux païens que j'irai ». Mais là aussi, rien de nouveau, puisqu'il a pris cette décision il y a bien longtemps. Rappelons même que le Collège des apôtres l'avait désigné pour être spécialement l'apôtre des païens. Mais malgré tout, jamais Paul ne se résoudra à abandonner, comme il dit, ceux de son sang. Il le dit dans sa lettre aux Romains, jusqu'au bout, il se battra pour le salut d'Israël, quitte à se mettre en danger, parce qu'il est convaincu que l'alliance de Dieu avec le peuple hébreu est, selon ses propres mots, je cite l'Épître aux Romains, chapitre 11, verset 29, c'est une alliance irrévocable. Et il leur réservera donc toujours la priorité dans l'évangélisation. Mais le fait est là, les siens, en général, n'en veulent pas. Et Paul va voir ailleurs. Mais ici à Corinthe, il ne va pas bien loin. Juste la porte à côté de la synagogue. Je vous lis l'Acte des Apôtres, verset 7 du chapitre 18. « Quittant ce lieu, il se rendit chez un certain Titius Justus, adorateur de Dieu, dont la maison était contiguë à la synagogue. » Voilà, c'est vraiment nargué. Il s'installe la maison d'à côté et de là, il va faire rayonner le message « et beaucoup de Corinthiens devinrent croyants. Et même un juif de la synagogue, finalement, un des chefs de la synagogue devint chrétien, lui et toute sa maison. Plus tard, dans la première lettre qu'il écrira aux Corinthiens, Paul rappellera qu'il a lui-même baptisé ce Crispus. Donc, l'accueil de l'annonce évangélique par les Corinthiens est plutôt favorable. C'est pourquoi Paul va rester sur place pendant au moins un an et demi. Et les Actes chapitre 18 nous disent que le Christ lui-même est apparu à Paul pour l'encourager. Je vous lis ce passage, donc verset 9. « Une nuit, le Seigneur dit à Paul dans une vision, « Sois sans crainte, continue de parler, ne te tais pas. Je suis en effet avec toi. » Et personne ne mettra la main sur toi pour te maltraiter, car dans cette ville, un peuple nombreux m'est destiné. Voilà, et de fait, il y aura à Corinthe une communauté chrétienne importante. Alors, toutes choses égales d'ailleurs, disons que quand même les historiens, quand ils disent que c'est une communauté importante, c'est tout au plus une centaine de personnes. Et en plus, ce sera une communauté compliquée à gérer. Ça posait beaucoup de soucis à Paul, parce qu'elle se composera en majorité de païens convertis, venus d'horizons multiples et imprégnés de religions très différentes, qui leur avaient laissé des coutumes parfois assez contestables, voire même immorales. Alors, je cite même l'habitude de, à cette époque, pour désigner la débauche, on employait un verbe qui était « corinthiser », c'est-à-dire si les mœurs de Corinthe étaient connues pour un certain laxisme. Alors, cela s'explique par le mélange des cultures, mais aussi parce que la population, dans sa grande majorité d'origine modeste, est très peu instruite. Donc, le travail de Paul allait s'avérer important, mais difficile. On verra dans les lettres qu'il leur écrira après son départ, donc il y eut à Corinthe des problèmes et des désordres à combattre. Vraiment, il fera des gros coups de colère. Mais s'il n'y avait que les problèmes de la communauté, mais il y a aussi à Corinthe l'hostilité grandissante de la communauté juive, plus le christianisme monte en puissance, plus il s'agace, disons, et ils vont carrément attaquer Paul et le convoquer devant la justice de Rome. Je vous lis cet épisode quand même dans les Actes des Apôtres, chapitre 18, verset 12. « Sous le proconsulat de Gallion, en Achaïe, l'hostilité des Juifs devint unanime à l'égard de Paul et ils l'amenèrent au tribunal, disant « C'est à un culte illégal de Dieu que cet individu veut amener les gens. » Alors, Paul allait prendre la parole quand Gallion répondit aux Juifs. S'il s'agissait d'un délit ou de quelque méfait notoire, je recevrais votre plainte comme de raison aux Juifs. Mais puisque vos querelles concernent une doctrine, des noms et une loi qui vous est propre, cela vous regarde. Je ne veux pas, moi, être juge en pareille matière. » Et il les renvoya du tribunal. On se saisit alors de Sosthène, chef de synagogue, et on le roua de coups devant le tribunal. Mais Gallion ne se mêla absolument pas de cette affaire. Alors, c'est un petit épisode amusant, finalement, de la vie de Paul, qui rappelle presque le fonctionnement du procès de Jésus, avec l'embarras de Ponce Pilate, quand l'autorité romaine refuse de prendre parti dans ce qui est pour eux une querelle interne au judaïsme. Et puis, remarquons que comme Jésus, Paul est finalement resté muet. Mais à la fin, il est libéré. Et c'est le chef juif qui sera bastonné. Alors pourquoi ? Peut-être parce qu'il a dérangé inutilement. Donc il y a quand même des différences. Mais il n'y a pas vraiment trouble à l'ordre public. Or, il faut qu'il y ait trouble à l'ordre public pour que les Romains commencent vraiment à prendre les choses au sérieux. Ça arrivera plus tard. Mais là, l'intérêt de ce petit passage, c'est que Gallion, on sait exactement à quelle époque il a vécu, et on sait que c'est exactement ce procès de Paul, ou ce faux procès, a lieu en l'an 52. Donc, c'est intéressant pour un repère historique, et on sait donc que Paul a environ 40 ans, un peu plus, 42, 3, 4, on ne sait pas très bien, mais on s'y situe un peu, il est déjà dans sa maturité. Et alors, après cet événement-là, après 18 mois passés à Corinthe, il va reprendre la route, et cette fois gagner Éphèse.
RGC.
Paul reprend donc la route pour Éphèse. Alors, Éphèse, c'est une des plus grandes cités d'Asie mineure. Mais il va emmener avec lui le couple Priscille et Aquilas, ses amis chrétiens donc très engagés, et il va les installer à Éphèse, où ils deviendront le pilier, la cellule familiale où va germer le développement de l'église d'Éphèse. Mais lui-même, il ne fait qu'un bref séjour, juste le temps d'aller un peu discuter avec les Juifs à la synagogue pour essayer d'éveiller leur intérêt. Mais il ne s'installe pas. Tout de suite, il va reprendre la route, mais en promettant de revenir dès que possible. Et il commence tout un circuit, mais un circuit pour aller raffermir des communautés chrétiennes qu'il connaît. Donc il repasse par Césarée, Antioche, il repasse par les Galates et la Phrygie. C'est traditionnellement un moment où on considère que c'est le début du troisième voyage de saint Paul. Mais enfin, on n'est pas vraiment sûr que dans l'esprit de Paul, il y a un découpage aussi clair, premier, deuxième, troisième voyage. En fait, lui, il continue sans cesse de bouger, avec des temps d'arrêt plus ou moins longs, selon les nécessités du lieu ou du moment. Mais pour lui, c'est toujours le même mouvement missionnaire poussé par l'Esprit-Saint. Et après cette petite tournée de visite des communautés, Paul va revenir à Éphèse. Et d'abord, aller prendre des nouvelles de la communauté chrétienne, où il rencontre les fidèles, et il tombe sur un groupe de fidèles qu'il trouve un peu étrange, disons, bizarre. C'est pourquoi les Actes des Apôtres vont faire ce récit, assez étonnant aussi, chapitre 19, verset 2. Paul leur demanda, « Avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous êtes devenus croyants ?» Ils lui répondirent, « Mais nous n'avons même pas entendu parler d'Esprit Saint. » Paul demanda, « Alors, quel baptême avez-vous donc reçu ?» Ils lui répondent, « Le baptême de Jean. » Paul reprit, « Jean donnait un baptême de conversion et il demandait au peuple de croire en celui qui viendrait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Ils l'écoutèrent et reçurent le baptême au nom du Seigneur Jésus. Paul leur imposa les mains et l'Esprit Saint vint sur eux. Ils parlaient en langue et prophétisaient. Il y avait en tout environ 12 personnes. Voilà un passage intéressant qui nous montre une capacité de discernement dont Paul fait preuve, parce qu'à l'œil nu, il voit une différence entre ceux des chrétiens qui ont reçu l'Esprit-Saint et les autres. Il les interroge et il apporte le remède. Mais à quoi a-t-il vu que ce n'étaient pas encore des chrétiens complets? Rien n'est dit à ce sujet. En tout cas, il y a clairement une différence entre la conversion apportée par le baptême de Jean et le baptême au nom de Jésus-Christ. Et la présence de l'Esprit-Saint se remarque avec des manifestations concrètes chez les baptisés. Hein, vous avez remarqué, parler en langue et prophétiser. Voilà, ça sert évidemment de point d'appui au développement des réflexions sur l'Esprit-Saint de nos jours. Mais après cela, Paul va de nouveau s'intéresser aux Juifs et il retourne à la synagogue d'Éphèse, donc il l'avait visité quelque temps avant, et il va s'efforcer cette fois d'arriver à les convaincre tous. Alors, ça va prendre 3 mois, mais au bout de 3 mois, aucun résultat, juste un durcissement et la colère de la part de ses auditeurs. Alors, comme d'habitude, il jette l'éponge et rompt les relations avec la synagogue. Mais alors, c'est pas tous les Juifs. Il y a toujours quelques-uns, certains Juifs, qui vont continuer quand même à le suivre et à venir écouter tous les enseignements qui vont se prolonger à Éphèse, à la maison sans doute où il habite, ou Éphèse où il va habiter encore pendant 2 ans. Donc vraiment, il installe une communauté, sa prédication a du succès, il gagne en puissance, et ça s'accompagne souvent de miracles, de guérisons, d'exorcismes. Donc tout va bien, la communauté chrétienne s'épanouit, mais c'est pas ça qui va attirer la paix dans la vie de Paul, parce que les succès vont entrer cette fois en concurrence avec la religion dominante à Éphèse, qui n'est pas le judaïsme, mais le culte d'Artémis, la grande Artémis d'Éphèse. La splendeur du temple d'Artémis à Éphèse avait une renommée mondiale. Ça fait venir des pèlerins de partout, c'était une des sources de richesse de la ville. Et avec le danger de la prédication de saint Paul, il y eut d'abord une grande révolte des artisans orfèvres, les fabricants d'idoles, qui voyaient décroître leurs bénéfices et leurs gains. Ensuite, l'agitation gagna tous les fidèles de la grande déesse grecque. Ça contestait sa puissance. Puis l'émeute devient générale à Éphèse, jusqu'à mettre les chrétiens en danger. Donc ça va convaincre Paul qu'il valait mieux qu'il s'en aille, comme d'habitude, et que la communauté chrétienne se fasse plus discrète. Mais bien sûr, ça n'empêche pas la mission de se prolonger, parce que les disciples vont continuer et atteindre, rayonner plus largement toute la région d'Asie mineure, vers Colosse, Laodicée, Hiérapolis, etc. Donc, ce qui est la Turquie aujourd'hui. Mais pour Paul, voilà, il quitte Éphèse et c'est là un tournant dans sa mission. Il n'ira pas plus loin dans ce qu'on pourrait dire le défrichage d'une nouvelle communauté et il décide de revenir sur ses pas, d'aller visiter encore une fois les communautés qu'il connaît bien. Mais c'est vraiment le début d'une tournée d'adieu qui commence. Il est en train de réorganiser un retour à Jérusalem où il sait que les événements vont être dramatiques. En passant par les communautés chrétiennes, il leur donne ses derniers enseignements, il les renforce, il les instruit encore. Il les réconforte aussi parce qu'il leur annonce la séparation et elle sera douloureuse. Je vous lis quelques extraits du discours d'adieu qu'on trouve dans les Actes des Apôtres au chapitre 20. Voici ce que dit Paul. « Maintenant, prisonnier de l'esprit, me voici en route pour Jérusalem. Je ne sais pas quel y sera mon sort, mais en tout cas, l'Esprit Saint me l'atteste de ville en ville. Chaînes et détresses m'attendent. Je n'attache d'ailleurs vraiment aucun prix à ma propre vie. Mon but, c'est de mener à bien ma course et le service que le Seigneur Jésus m'a confié, rendre témoignage à l'Évangile de la grâce de Dieu. Mais désormais, je le sais bien, voici que vous ne reverrez plus mon visage. » Je passe quelques phrases. Prenez soin de vous-même et de tout le troupeau dont l'Esprit Saint vous a établi les gardiens. Veillez donc en vous rappelant que nuit et jour, pendant des années, je n'ai pas cessé dans les larmes de conseiller chacun d'entre vous. Et maintenant, je vous remets à Dieu et à sa parole de grâce. Voilà, je saute encore tout un passage de ce discours terriblement poignant. J'arrive au verset de conclusion. Après ces paroles, il se mit à genoux avec eux et pria. Tout le monde éclata alors en sanglots et se jetait au cou de Paul pour l'embrasser. Voilà. Avec l'émotion que provoqua cette tournée d'adieu, on peut se rendre compte à quel point Paul était aimé. Sa puissance missionnaire, c'était d'abord le résultat de sa propre force d'amour et de don inconditionnel de sa vie. Il n'a pas fait une campagne de propagande intellectuelle, il a transmis ce qu'il avait reçu au plus profond de lui-même. Il a donné sa propre vie à l'image de son Seigneur, qu'il a toujours soutenu et accompagné. Mais si la phase active de la mission de Paul semble s'arrêter ici, sa vie n'est pas encore terminée et il va l'utiliser jusqu'au bout, jusqu'à son dernier souffle. Il en fera quelque chose pour le service du Christ. Mais nous verrons cela lors de notre prochaine émission. Et je vous dis maintenant au revoir, chers auditeurs, et à très bientôt.